passer. Et cette fois, il n'y aura pas d'image, mais vous avez l'exemplier avec les fragments sur lesquels je m'arrêterai. Le mot distance n'est pas l'un de ceux que Pascal s'attarde à définir. Dans sa première lettre au Père Noël concernant ses expériences sur le vide, le jeune savant avait coupé court aux élucubrations de son interlocuteur, le rappelant à une règle universelle de méthode qui consiste dans l'exigence de ne raisonner que après avoir trouvé un accord sur le sens des mots. Si nous rapportons cela à la méthode de raisonner dont nous avons parlé, nous trouverons qu'il faudrait auparavant être demeuré d'accord de la définition de l'espace vide, de la lumière et du mouvement. La même exigence est énoncée de façon encore plus claire dans l'opuscule de l'esprit géométrique, où nous lisons « On ne reconnaît en géométrie que les seules définitions que les logiciens appellent définition de nom. Le nom imposé demeure dénué de tout autre sens, s'il en a, pour n'avoir plus que celui auquel on le destine uniquement. » Et cependant, l'œuvre entière de Pascal nous atteste à quel point les mots, en dehors de leur emploi pour une formalisation du raisonnement, sont voyageurs. Ils émigrent d'un registre rhétorique à l'autre, d'un domaine à l'autre du savoir, en véhiculant chaque fois une partie de la richesse sémantique qu'ils ont acquise le long du chemin. On peut même dire que la cohérence de l'univers de Pascal réside dans cette mobilité de notions et d'images qui, une fois élaborées, dans le contexte de la recherche scientifique, changent d'ordre, passent vers une sphère morale, philosophique ou théologique, se chargent de valeurs poétiques, deviennent les mots-clés d'une vision du monde. Je voudrais donc proposer quelques réflexions sur l'usage du mot « distance » dans les pensées, en tenant compte aussi de la présence ou d'une absence significative du même lemme dans d'autres écrits de Pascal. Le sujet que j'aborde mériterait peut-être des développements que je ne fais ici qu'ébaucher. Si l'on considère la constellation thématique et conceptuelle qui semble graviter autour de ce vocable « distance ». Les concordances des pensées révèlent un fait assez surprenant. Le lemme qui nous intéresse revient 8 fois dans la totalité des pensées, avec 2 occurrences ultérieures de l'adjectif « distant »,« distance »,« distante », donc 10 d'occurrences, et c'est l'aspect le plus intéressant, cela dans 5 fragments, dont 3 sont parmi les plus célèbres et les plus emblématiques du texte pascalien. Donc sur 10 occurrences, 8 appartiennent à 3 fragments qui sont parmi les plus centraux du texte. Il s'agit de l'immense fragment 230 de l'édition Cellier, c'est-à-dire le discours qui a pour titre « Disproportion de l'homme », que l'on connaît aussi comme le fragment des 2 infinis, du fragment 339, connu comme le fragment des 3 ordres, orchestrant avec le mouvement d'un poème en prose un thème qui structure la vision du monde de Pascal, du fragment 680, Infini rien, celui que nous venons de voir, que l'édition Cellier identifie comme le discours de la machine et que l'on connaît comme le fragment du pari. Les 2 fragments qui restent, 683 et 657, peuvent apparaître face à l'importance majeure de ce que je viens de citer plus anodin. Nous verrons qu'il n'en est pas ainsi. En particulier, le premier apporte un complément indispensable au fragment des deux infinis, aussi bien qu'au fragment des trois ordres, par son insistance sur l'homme paradoxal et sur la dialectique de la misère et de la grandeur. Un examen rapproché des passages qui nous intéressent, ce qui crève les yeux, c'est la relation intime qu'ils établissent entre la distance et l'infini. Soit que l'infini devienne l'adjectif de la distance, dans le syntagme « distance infinie », soit qu'il contienne comme un horizon et relativise comme un absolu les dialectiques de la distance et de la proximité. Voyons de plus près ce qui, dans ces fragments, est essentiel pour notre propos. Le fragment 230 fait partie de la liasse « Transition de l'homme à Dieu ». Il joue dès ses premières notes la musique de l'éloignement. Vous l'avez sous les yeux, que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit. Après avoir développé la contemplation des deux infinis, le texte se ramène vers ce milieu dans lequel l'homme vit sa pénible disproportion. Je cite « borné en tout genre ». Cet état qui tient le milieu entre deux extrêmes se trouve en toutes nos puissances. Nos sens n'aperçoivent rien d'extrême. Trop de bruit nous assourdit, trop de lumière éblouit, trop de distance et trop de proximité empêchent la vue. Le fragment des trois ordres, sur lequel je reviendrai à la fin, concentre dans son incipit deux parmi les huit occurrences qui nous intéressent. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Le fragment du Paris en rassemble trois, et chaque fois elles sont en rapport avec l'adjectif infini ou avec le substantif « infinité ». Je lis ces lignes que vous avez dans l'exemplier. Examinons donc ce point et disons « Dieu est ou il n'est pas ». Mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous? Je mets des passages, car il ne sert de rien de dire qu'il est incertain si l'on gagnera et qu'il est certain qu'on hasarde et que l'infinie distance qui est entre la certitude de ce qu'on gagnera égale le bien fini qu'on expose certainement à l'infini qui est incertain. Cela n'est pas ainsi. Tout joueur hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n'y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu'on s'expose et l'incertitude du gain. Cela est faux. Dans le fragment 757, l'infini n'est pas en question, sinon de façon indirecte, puisque la notion de distance est introduite de façon opératoire dans la dynamique d'une comparaison entre des grandeurs morales. Y a-t-il plus de distance de l'infidélité à la foi que de la foi à la vertu? L'interrogation est ironique dans le contexte du fragment. Ailleurs, une autre distance, un loin plus absolu, se soustrait à l'incertitude comme à la figure du chiasme. Qu'il y a loin de la connaissance de Dieu à l'aimer. C'est le fragment 409. Et encore un autre synonyme vient à l'esprit, différence, d'après le fragment 397, qui introduit avec moins de pathos, mais avec autant de gravité, un schéma presque identique. L'expérience nous fait voir une différence énorme entre la religion et la bonté. Mais le fragment 683, qui traite de la distorsion de l'homme entre la ressemblance à Dieu et le rabaissement au niveau des brutes, supposant le dépassement vers le haut ou vers le bas de cet impossible milieu, qui est le lieu fluctuant de l'humaine condition, vient colorer l'infini des couleurs violentes de l'émotion. Que deviendra donc l'homme? Sera-t-il égal à Dieu ou aux bêtes? Quelle effroyable distance! Que serons-nous donc? Qui ne voit par tout cela que l'homme est égaré, qu'il est tombé de sa place, qu'il la cherche avec inquiétude, qu'il ne la peut plus retrouver? Et qui l'y adressera donc? Les plus grands hommes ne l'ont plus. Revenons brièvement en arrière. L'idée d'infini, tout ainsi que celle de vide, prend ses plis et ses tours dans le domaine de la connaissance scientifique. L'une, l'idée d'infini, s'engendre dans l'ordre géométrique, pour s'étendre ensuite à l'ordre des réalités physiques et s'épanouir dans une représentation de l'univers, sur lequel Pascal projette les caractères abstraits de l'espace géométrique, homogène, isotrope, indifférencié, dégagé de toute référence qui permettrait de mesurer le haut et le bas, l'intérieur ou l'extérieur, infiniment extensible et divisible à l'infini. L'autre, l'idée de vide, s'affermit, si l'on peut dire, au milieu des expériences de physique, et c'est grâce à elle que s'opère la transposition physique et cosmologique d'un espace infini éminemment abstrait. Mais la problématique de l'espace chez Pascal est un tel carrefour interdisciplinaire que les études pascaliennes, quoique innombrables, renoncent à l'embrasser dans son entier. D'un côté, elle, cette problématique de l'espace, est au centre de la définition pascalienne de la géométrie dont Jean Ménard a souligné l'originalité. L'objet de la pure géométrie est l'espace, dont elle considère la triple étendue en trois sens divers qu'on appelle dimension. Il ne manque pas des lieux dans le corpus des écrits de Pascal où le jeune géomètre, s'opposant aux vues du Père Noël qui réifie et matérialise l'espace, tente d'approcher par une voie négative et tautologique la définition de cette réalité, qu'ailleurs il considère nettement comme indéfinissable. Je le cite, « D'où l'on peut voir qu'il y a autant de différences entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel, et qu'ainsi l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant », écrit-il. Et encore, il est vrai que l'espace n'est ni corps ni esprit, mais il est espace. Ainsi, le temps n'est ni corps ni esprit, mais il est temps. Et comme le temps ne laisse pas d'être, ainsi l'espace vide peut bien être, sans pour cela être ni corps ni esprit. D'où il est aisé de percevoir que espace et espace vide tendent secrètement à devenir synonymes dans l'argumentation de Pascal. De l'autre côté, le lexique de l'espace possède une formidable dimension rhétorique. Il est à l'origine d'innombrables investissements métaphoriques et symboliques. Et il est à peine nécessaire de rappeler que, par le biais de l'imaginaire, les schèmes topologiques apportent une contribution essentielle à l'expression de la philosophie et de la spiritualité de Pascal. L'on pourrait même soutenir que dans plusieurs fragments des pensées, deux différents modèles topologiques s'affrontent, l'un abstrait et géométrique, l'autre affectif et symbolique, fonctionnant à l'inverse et qui finissent pourtant par s'intégrer. Dans le second, les catégories de bassesse et d'élévation, d'intérieur et d'extérieur, de centre et d'éloignement retrouvent leur pertinence, tout ainsi que dans l'expérience humaine concrète de l'espace. L'homogène et l'indifférencié, l'espace infiniment extensible et divisible, se confrontent alors, comme par une dramatique tout intérieure au texte pascalien, avec un espace qualitatif, valorisé affectivement et moralement, dans lequel le vide infini se nomme abîme, le milieu si abstrait devient vaste et orageux comme la mer, le centre se fait demeure, et il y a un vrai lieu, fragment 19, à rechercher, et le geste d'entrée peut changer la vie, tandis qu'un renversement du pour au contre peut faire de la bassesse la révélation de la gloire. Or, mon hypothèse est que l'image topologique de la distance surgit exactement à la croisée de ces deux modèles et dans quelques fragments où la tension dramatique qu'ils entretiennent est orchestrée de façon magnifique. Mais avant de rendre compte de cette hypothèse, je voudrais m'attarder à vérifier si un usage varié du lemme « distance » est attesté chez Pascal dans les écrits scientifiques d'un côté, dans les pages spirituelles de l'autre. Je ne prétends pas ici à l'exhaustivité, mais il est peut-être digne d'attention que la distance infinie apparaisse une première fois dans la génération des sections coniques, qu'on a défini le fondement de toute la géométrie de Pascal, et que même dans ses recherches rigoureuses de géométrie projective, les jeux de la distance génèrent des visions quelque peu déconcertantes pour la raison. Une lecture non savante de certains passages de l'opuscule pourrait saisir une similarité d'imaginaire. Il y a un imaginaire scientifique. Une similarité d'imaginaire avec certains fragments des pensées. Je m'amuse à lire des lignes de cet opuscule pour en écouter la résonance. Corollaire, avec les mêmes données sur le plan du tableau et parallèle à deux des verticales, par suite détermine une hyperbole. Il est manifeste que tous les points de la circonférence projettent leurs images sur le plan de vision, c'est-à-dire sur le tableau à distance finie, excepté deux points dont les images, à cause du parallélisme, ne se trouveront pas, sinon à distance infinie. Ainsi s'appelleront-ils points sans image du cercle et, sous le rapport de l'hyperbole, points manquants. Scully 1, de là résulte que l'hyperbole s'étend à l'infini et consiste en deux parties dont l'une quelconque engendre un espace infini. L'une des deux demi-hyperboles est l'image d'une partie de la circonférence, l'autre de l'autre. Ainsi, chaque point de la circonférence donne son image sur l'une ou l'autre des demi-hyperboles, excepté deux points qui ne se trouvent sur aucune des deux demi-hyperboles, sinon à distance infinie. Je m'excuse de ne pas savoir commenter ces passages en termes scientifiques et de les avoir choisis, je l'avoue, seulement pour les résonances que certains mots susciteraient si on les projetait sur un autre plan de vision. Image, espace infini, ne pas trouver, point, point sans image, point manquant, distance infinie. Pascal ne changera pas de vocabulaire en changeant d'intérêt lorsqu'il sera convaincu que la géométrie, le plus beau métier du monde, est inutile en sa profondeur. Remarquons Pourtant, qu'en dehors des démonstrations géométriques, le lemme qui nous intéresse est rare chez Pascal savant. Il apparaît que le mot distance n'a pas de pertinence dans les écrits où Pascal élabore son idée d'espace, sa définition de géométrie ou sa théorie des grandeurs discontinues, même lorsqu'il sort du genre de l'écriture strictement scientifique pour une approche accessible aux honnêtes gens, comme dans l'opuscule de l'esprit géométrique. En effet, l'on rencontre alors une vaste gamme de vocables, depuis étendue et dimension jusqu'à différence et distinction, depuis intervalle jusqu'à vide, qui ont une certaine tangence à la notion de distance. Et parfois, comme c'est le cas pour distinction, un radical en commun avec le mot qui nous intéresse ici. Mais distance est dans cette famille une étrangère. Elle vient d'ailleurs, elle n'a pas encore sa place. Il est également surprenant, de l'autre côté, de vérifier que dans des morceaux spirituels, comme l'écrit sur la conversion du pécheur, ou comme la prière pour le bon usage des maladies, voire dans des textes théologiques comme les écrits sur la grâce, le lemme que nous poursuivons n'a pas une meilleure fortune. Peut-être à cause de la prédilection que l'auteur voue à une autre famille de mots, apparentée de façon intime aux nôtres, mais plus sensible et concret, tels que loin, s'éloigner, éloignement. Ce sont ces derniers qui disent, par une vibration de nostalgie que leur sonorité même semble mystérieusement entretenir, un état de dissemblance entre créateur et créature, une fracture, une perte, que seule la grâce qui coûte cher de l'augustinisme janséniste, peut redresser. J'avais rappelé les définitions des distances chez les dictionnaires du XVIIe siècle et dans l'encyclopédie. Dans les dictionnaires modernes, l'on retrouve les synonymes que le dictionnaire classique avait déjà enregistrés. Et ce sont les mêmes qui caractérisent régulièrement, comme nous avons vu, les différents registres de la réflexion de Pascal. Éloignement, espace, étendue, intervalle. Demandons-nous alors pourquoi et à quelles conditions Pascal recourt, au-delà de tant de synonymes, au lemme distance, jusqu'ici cantonné dans la démonstration géométrique. Pourquoi lui donne-t-il une place royale dans les plus stratégiques de ses fragments ? En réalité, la distance qui surgit dans quelques fragments de Pascal, si rare et fulgurante qu'elle impose une réflexion, pourrait avoir une source littéraire dont des études récentes contribuent à mettre en lumière toute la portée. Distantia, qui peut signifier aussi bien distance qu'indifférence, distraction, est un mot familier à la littérature patristique et monastique, et pourrait se situer sans difficulté dans le sillage du diastema, cher aux stoïciens. Elle implique en effet un état de séparation de l'homme d'avec lui-même et une distorsion de la nature humaine que cette même finitude rend paradoxale. Celui que Pascal a considéré lui aussi comme le dernier des pères, Bernard, dans le sermon 82 sur les Cantiques. Nous n'avons pas de preuve textuelle que Pascal ait connu ce sermon, mais il a lu certainement le sermon 84 et d'autres pages bernardines. Donc, Bernard, dans ce sermon, utilise l'image de la distantia en l'enfonçant comme un coin au cœur d'une question théologique qui lui est particulièrement chère. Dans le récit de la création, l'image et la ressemblance de l'homme à Dieu du verset de Genèse 1, 26 ne sont pas des synonymes. L'homme a la possibilité de perdre la ressemblance avec Dieu mais non pas celle d'effacer en lui-même l'image de Dieu. Entre l'image ineffaçable et l'état de dissemblance, dans lequel en fait l'homme s'incurve, il y a donc l'espace d'une distancia, d'un intervalle, vaste de la tragique amplitude de la regio dissimilitudinis augustinienne. Cette terre d'exil sépare l'homme de Dieu et à la fois de lui-même, c'est-à-dire de l'inadmissible image qui le rend humain. Dans le sermon 82 sur le Cantique, Bernard avait utilisé des expressions qui trouvent un écho assez direct dans le fragment 683 de Pascal à propos de l'homme et des brutes. Dans ce même sermon, Bernard présente le sentiment de la distance comme la souffrance d'un état de tension entre la ressemblance et la dissemblance, avec une rhétorique de la double polarité qui pourrait faire pressentir de loin le mouvement de la dialectique pascalienne. Je cite en italien, en français, « Car la première ressemblance demeure, l'une, la dissemblance, déplaît d'autant plus que l'autre, la ressemblance, demeure, par la mutu, o quantum bonum ista, quantumque malum illa. Par la mutuelle comparaison, chacune des deux choses est exaltée dans son genre. L'âme désespère à cause d'un si grand mal, elle recommence à espérer à cause d'un si grand bien. » Le probable tissu intertextuel entre Pascal et Saint Bernard a été mis en valeur il y a quelques années par Simon Icard dans un beau volume sur Bernard et Port-Royal. De son côté, Hélène Michon, dans l'Ordre du Cœur, avait souligné que Pascal, du moins dans les pensées, ne s'inspire pas d'une anthropologie dont Genèse 1, 26 serait la référence explicite, d'une théologie de la ressemblance. La distorsion des stoïciens et une plus moderne disproportion sont les données phénoménologiques plus immédiates sur lesquelles Pascal sollicite une paradoxale connaissance de soi-même. Je cite Hélène Michon, qui est très claire. Pascal qui cherche dans un premier temps à poser les bases d'une connaissance de soi en plein site philosophique, n'entend pas utiliser la définition de l'homme qui nous est donnée en Genèse 1, 26. Ne pouvant alors que souligner la dissemblance sans mentionner le rapport initial de ressemblance, tout au moins dans l'apologie, il modifie considérablement la topique en question. D'une topique de la dissemblance de l'homme avec Dieu, elle devient celle d'une pure distance. L'homme trouve alors sa caractéristique principale dans cette distorsion. Si l'on parcourt ainsi les fragments de Pascal, si l'on erre un peu parmi ses sources anciennes et sa critique récente, l'on finit par attribuer à la distance pascalienne des coordonnées singulièrement complexes. Elle semble être ce qui reste d'une anthropologie bâtie en toute cohérence biblique et théologique sur le syntagme « à image et ressemblance », une fois que cette mémoire biblique n'est plus assumée comme fondement. Distance remplace alors avec une sorte de froideur que le pathos des adjectifs infini, effroyable, tend à rendre tragique, les mots dissemblance et distorsion. La distance d'avec Dieu et d'avec soi-même se dilate par ailleurs dans un univers privé de ce principe de proportion qu'était l'ancienne loi de l'analogie. Il y a dans la distance de Pascal quelque chose comme un silence, une vacance, une béance. C'est peut-être pour cette raison qu'il finira par l'utiliser comme un mot-clé lorsqu'il conjuguera dans une même vision imaginaire le modèle scientifique à la fois géométrique et cosmologique de l'espace infini, qui est vide et dissous la sphère de l'univers, et le modèle anthropologique de la inanitas cordis, le vide du cœur, de la perte du vrai lieu et de la séparation entre les ordres de grandeur. Maintenant, on peut revenir aux occurrences du mot que j'ai signalé pour les reprendre et les commenter brièvement. Dans le fragment 683, le plus bernardin parmi ceux que j'ai cités, il est sous-entendu que la distance dont il est question s'étend entre Dieu et les brutes. S'isolant de façon elliptique dans une phrase nominale, quelle effroyable distance, elle terrifie par son ampleur. Elle s'avère capable d'emporter en son abîme toutes sortes de milieux dans lesquels l'homme tente de bâtir sa propre demeure. Le fragment 230 décrit justement ce milieu distendu entre des pôles extrêmes, déchiré par des contrastes et des excès. Trop de distance, trop de proximité. L'usage, ou plutôt les usages de notre lemme dans le fragment du Paris mérite de retenir davantage l'attention. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie. Distance infinie paraîtra ici, de prime abord, interchangeable avec ce chaos infini qui s'interpose entre la raison et Dieu, tout comme l'espace infini s'interposait dans le fragment 230, le fragment des deux infinis, entre l'homme et les extrêmes, également soustraits à sa connaissance. Tant il est vrai que le naufrage de la pensée dans la contemplation de l'infini était dans ce fragment le signe creux du Dieu que l'esprit ne peut pas embrasser. Cependant, ici, dans le fragment du Paris, c'est justement le mot distance qui est le pivot d'un renversement du pour au contre. Le joueur tente de se soustraire au risque du pari, c'est-à-dire au risque de miser le fini en vue du gain incertain de l'infini, en opposant à la fascination de l'infini le poids d'un autre infini, l'incertitude elle-même infinie, c'est-à-dire un mauvais infini qui sortirait l'effet de rendre infini la valeur des choses finies et d'arrêter par conséquent la main prête à jouer. Je relis pour plus de clarté le passage. L'infinie distance qui est entre la certitude de ce qu'on gagnera, ici il y a un anacolute du point de vue de la syntaxe, égale le bien fini qu'on expose certainement à l'infini qui est incertain. Mais ce n'est pas ainsi, ajoute Pascal. Cette infinie distance entre le risque et le gain n'existe pas. La raison peut la maîtriser, elle qui bride le hasard par la règle des parties, si bien que la distance infinie subsiste, tragique sans être chaotique. On remarquera le déplacement de l'adjectif dans les deux syntagmes « infinie distance » et « distance infinie » et la différence de tonalité qui en découle. Une distance capable de garder dans toute sa pureté l'ordre axiologique entre le fini et l'infini. Le jeu mystérieux est à ces conditions digne d'être joué. Pour conclure, une autre distance infinie attire notre attention, celle du fragment 339 sur les trois ordres des grandeurs. Cette page culminante où Pascal, par excellence l'écrivain de l'inachevé, exprime son effort de penser la totalité et condense en quelques versets sa vision du monde. Je relis au moins le début du fragment. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Je relis aussi la conclusion. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela et soi, et les corps, rien. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel. Si la distance qui sépare définitivement les ordres spatialise le concept philosophique typiquement cartésien de distinction entre matière et esprit, cet imaginaire topologique projeté vers l'infini ravive la représentation cosmologique du fragment 230 d'un côté, des écrits de Pascal sur le vide de l'autre. L'espace, à la fois physique et géométrique, à travers les voiles de la distance, se revêt de cette dimension hautement métaphysique vers laquelle convergent en fait les différentes réflexions pascaliennes sur l'espace. Mais distance, nous l'avons vu, a également une résonance morale. Le problème du rapport entre les ordres se configure alors comme le problème humain par excellence, insoluble, dilaté jusqu'à une ampleur cosmique, élargie aux dimensions de la totalité. Pourquoi donc le fragment de 339 qui parle d'une discontinuité si tragique et à cause de cela pourrait être interprété comme une clé de voûte de l'écriture fragmentaire de Pascal? Pourquoi est-il harmonieux comme un poème, solennel comme un éloge? Pourquoi célèbre-t-il dans la séparation des ordres un ordre d'une beauté infinie? C'est que l'autre modèle topologique, celui d'une réalité moralement et affectivement pleine, d'un espace symbolique connoté par la valeur, se concrétise effectivement autour de l'unique verbe qui raconte un événement, voire un avènement. Jésus-Christ est venu. Son avènement absolu a non pas harmonisé, non pas réuni, non pas seulement converti, mais renversé les ordres de grandeur. L'ordre du cœur et de la sagesse ou de la charité n'est pas l'ordre le plus élevé du point de vue hiérarchique dans cette vision de la totalité où toutes les échelles sont brisées. Il se manifeste plutôt dans un renversement des valeurs. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voit la sagesse. Et s'il, fin de citation. Et si la pompe et la magnificence coïncident avec la bassesse, si elles resplendissent dans la petitesse, le plus petit acte de charité, la distance infinie, qui dans d'autres fragments se nommait vide et chaos et suscitait l'effroi, est désormais comblée de sens. Elle est devenue poésie, liturgie, à la louange de cette gloire. Pour conclure définitivement, il reste à s'interroger sur la leçon que ces usages pascaliens de la distance pourraient nous offrir concernant l'écriture même de Pascal et sa pratique du fragment et de l'inachevé. J'ai voulu souligner la centralité de la notion de distance dans des fragments très développés qui ressemblent plutôt à des discours ou, comme c'est le cas du fragment des Trois Ordres, à des poèmes en prose. Dans ce dernier, nous avons pu constater que l'euphémisation du tragique de la distance infinie va de pair avec une réconciliation mystérieuse entre la partie et le tout, le fragment et l'unité, celle-ci constituant par ailleurs la partie d'un plus vaste tout et le fragment d'une unité à venir. Dans d'autres occurrences, l'idée de distance nous est apparue comme impliquée dans des stratégies dialectiques, des compensations ou des comparaisons. L'hyperbole ultime, la distance infiniment plus infinie, en est encore un exemple. La distance qui sépare est énoncée à l'intérieur d'un tissu qui établit la relation. C'est peut-être aussi à la lumière de ces différents usages du mot distance et pour ainsi dire de cette conversion possible de la distance, d'une distance noire à une distance blanche, d'une distance qui effraie à une distance qui assure l'ordre et la beauté, que l'écriture même du fragment cesse d'apparaître chez Pascal comme l'expression d'une pensée tragique et qu'elle peut être envisagée à la fois, ici je reprends la belle formule d'une récente publication pascalienne, celle de Laurent Thirouin, comme une rhétorique singulière et un rapport original à la vérité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute.